Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Bonjour à tous. Le président Jacques Chirac nous a quittés il y a déjà un an, le 26 septembre 2019. Et donc je voulais vous raconter aujourd'hui un tout petit morceau de sa très grande vie, et notamment son enfance. La jeunesse de Jacques Chirac. Donc je vais aller de ses 7 ans jusqu'à ses 22 ans, ce moment où il rentre à l'ENA et où il passe à la politique. Et je vais le faire bien sûr en m'appuyant sur la biographie qu'il a publiée chez Nil. Et du coup, pour le débrief tout à l'heure, j'ai invité celui qui a contribué à l'écriture de cette biographie, son éditeur et ami Jean-Luc Barré. Voici donc cette histoire consacrée à la jeunesse et l'enfance de Jacques Chirac. La réalisation est signée Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelat.
J'ai choisi de commencer cette histoire au tout début de la guerre, au début du printemps 1940. Et le voilà d'ailleurs, tiens, le petit Jacques. Vous le voyez, le petit garçon qui tient sa maman par la main, dans cette rue du 5e arrondissement, eh ben c'est lui. Ça lui fait 7 ans maintenant. Ils rentrent du parc tous les deux, ils sont allés se promener. Il a de la chance, Jacques. Sa mère, Marie-Louise, s'occupe beaucoup de lui. Il est la prunelle de ses yeux. Et remarquez, il faut la comprendre, elle a perdu son premier enfant, une petite fille de 2 ans, il y a 17 ans, une pneumonie. Alors celui-là, elle le couvre.
J'ai été un enfant plutôt gâté, fils unique, oui, ce qui n'arrangeait rien. Chaque fois que j'avais besoin de quelque chose, j'étais prioritaire.
Pour vous dire à quel point elle le couvre, quand il rentre à la maison, il a juste à s'asseoir pour goûter, les pieds sous la table. Elle a tout préparé, et quand il a droit à une sucette, c'est elle-même qui enlève le papier. Il est gâté, le petit Jacques. Avec son père, en revanche, Abel Chirac, c'est plus raide. Hein. Il est moins affectueux, il est même un peu froid. Le père, à cette époque-là, il est directeur de la Société Nationale de Construction Aéronautique du Nord. Gros poste, en pleine guerre, pensez-vous. Abel Chirac, c'est un monsieur qui a fait carrière.
Mon père comme ma mère étaient enfants d'instituteurs, mes quatre grands-parents étaient instituteurs, ils étaient tous corréziens.
Au début, Abel, le père, était instituteur lui aussi. Et puis il a quitté l'école pour la banque, à Clermont-Ferrand. Et ensuite il est monté à Paris pour diriger une agence dans les beaux quartiers, avenue de la Grande Armée. Et c'est là qu'il a été repéré par l'industriel Potez, le fabricant d'avions, et recruté comme directeur. Et c'est comme ça qu'il est devenu un bourgeois parisien. Quand le père était instituteur, il était radical socialiste, normal. Depuis qu'il est patron, il a mis de l'eau dans son vin. Il est plus centriste, plus modéré. Mais il a gardé le côté raide et austère et plein de principes du ratsoc corrézien. Il a aussi gardé de ses débuts d'instituteur l'habitude de raconter des histoires à son petit garçon. Tous les soirs, après la soupe, il lui lit du Victor Hugo, du Jules Romain, des passages d'Alexandre Dumas. Ça compte, ça. Ça ouvre les horizons, les histoires. À part ça, Jacques, c'est un gamin qui a beaucoup d'énergie. Le week-end, ils vont dans leur maison de campagne à l'Isle-Adam, dans le Val d'Oise, à 20 km de Paris. Le petit passe ses journées à jouer dans le jardin. Entre autres, au lancer de couteau contre un arbre. Un jour, le couteau rebondit et il le prend près de l'œil droit. La cicatrice restera. En juin 1940, après des mois de drôle de guerre, un face-à-face figé entre Français et Allemands, d'un coup, ça bouge.
10 mai. L'Allemand préfère une fois de plus à l'attaque de face l'ignominie d'une manœuvre qui se doit d'être d'abord l'immolation de 3 pays neutres. La Belgique matin rallie son peuple autour de son drapeau, tandis que nos toutes premières avant-gardes passent la frontière et que s'établissent les premières liaisons entre l'armée belge et nos troupes.
Et pour l'armée française, c'est la débâcle. Les Allemands sont en route vers Paris. Le vendredi 14 juin 1940, le petit Jacques est à l'Isle-Adam avec sa mère. le téléphone sonne.
Allô ? Marie-Louise ? Marie-Louise, c'est Marcel. Les Allemands entrent dans Paris. Il faut partir, hein.
Mais mon mari est en voyage au Canada ?
Ça ne fait rien. Il faut partir. On passe vous prendre. N'emportez qu'une valise.
Le Marcel en question. C'est Marcel Bloch, qu'on appellera plus tard Marcel Dassault. C'est l'avionneur. C'est un ami de la famille. Et les voilà donc à 7, deux familles, serrées comme des sardines, dans une Renault Viva 4 qui fuit avec les autres.
En files interminables, les réfugiés continuent d'affluer sur les routes qui conduisent vers l'intérieur de la France. L'irruption soudaine des hordes hitlériennes leur a laissé à peine le temps de réunir les objets les plus précieux et les plus utiles. Ils fuient devant l'ennemi qui ne respecte ni la vieillesse ni l'enfance.
Au début, Marie-Louise et le petit Jacques se réfugient chez ses parents à elle, à Sainte-Féréole, en Corrèze. Et puis deux mois plus tard, quand le père, Abel, les rejoint, toute la famille va s'installer au Rayol, près de Toulon. Sacré changement de vie pour le petit Parisien. Le début d'une vie de grandes vacances. Les Chirac habitent une belle villa, la Casarosa. Mais pour aller à l'école, il y a une heure de marche. C'est la campagne. Le petit Jacques a maintenant 8 ans et il s'est fait un copain, Darius. Darius Soumino. Un Rital, le père est ouvrier agricole et communiste. Darius a 11 frères et sœurs, et ça le change, Jacques, lui qui est enfant unique. Tous les deux, ils sont comme cul et chemise. Quand il n'y a pas école, on ne les voit pas de la journée, vous entendez? Ils vont dans les collines à courir, chasser, pêcher, tout ça pieds nus. À table le soir, on ne parle que de la guerre, bien sûr. Et on ne fait pas qu'en parler. On la sent, et même un jour, on la voit. En novembre 1942, par exemple, le petit Jacques voit le nuage de fumée qui s'élève au-dessus du port de Toulon. La flotte française qui se saborde. Hitler est en train d'envahir la zone libre. Alors le soir à table, à la Casa Rosa, c'est l'unique sujet de conversation des adultes.
Nous en sommes rendus à saborder notre propre flotte. Quel gâchis, hein ? Il n'y a plus que De Gaulle.
De Gaulle. Charles De Gaulle. Ça fait plusieurs fois que le petit Jacques entend parler de lui.
La flotte de Toulon, cette flotte de la France, vient de disparaître. Au moment où nos navires allaient être saisis par l'ennemi, le réflexe national a joué dans les âmes des équipages et des états-majors.
Et après ça va vite. Les Allemands prennent position dans le sud de la France. Ils ont tiré des fils téléphoniques d'un point à l'autre de la côte. Parfois enterrés, parfois pas. Et là, que font Darius et Jacques? Ils s'en font des lassos de cow-boys, figurez-vous. Ils coupent les fils qui dépassent et ils s'en font des lassos. Le fils d'un gaulliste et le fils d'un communiste. À part ça, ils continuent de mener leur vie de grandes vacances. Jusqu'au débarquement, en juin 1944, en Normandie.
Ici, Lens.
Et puis, les Alliés débarquent en Provence, dans la nuit du 14 au 15 août 1944, tout près de l'endroit où vivent les Chirac. Et pour Chirac, le débarquement, il s'incarne dans un officier qui se présente à la villa.
Général Brosset, commandant de la première division de la France libre.
Les Chirac l'hébergent pour la nuit. Le général porte deux étoiles sur ses épaulettes. Mais le petit Jacques lui dit...
Bonjour mon lieutenant.
Ça le fait bien marrer, le général. Et du coup, il lui fait la conversation à table comme à un adulte. Le lendemain, en partant, il lui offre une tablette de chocolat. Jacques ne l'oubliera jamais. D'autant que son héros meurt quelques mois plus tard dans un accident de voiture en Alsace. Ça lui fait beaucoup de peine. Et d'ailleurs, en sa mémoire, il fabrique un panneau de rue, en bois, avenue du Général Brossé, et il va le clouer à l'entrée du chemin de Rayol. Et puis, après l'armistice, en août 1945, la famille Chirac rentre à Paris, ou plutôt à Saint-Cloud. Et là, changement de décor, fini les balades dans les collines. Jacques le vit assez mal d'ailleurs, il a 13 ans et la vie citadine, ça lui casse les pieds comme il dit. C'est pour ça que sa mère l'envoie chez les scouts, pour calmer ce surcroît d'énergie du bison égocentrique. Ah oui, c'est son surnom, le bison égocentrique. En classe au lycée Hoche, il fait tout le temps le pitre. Un jour, il est pris en train de lancer une boulette sur son prof de géo. Monsieur Chirac, le conseil de discipline a décidé de vous renvoyer de l'établissement. On le change donc de lycée. Et là, même cirque.
Je bossais juste ce qu'il fallait pour passer d'une classe dans l'autre sans avoir à hypothéquer mes vacances.
En 1946, les Chirac s'installent dans le très huppé 8e arrondissement, rue Frédéric Bastiat. Jacques s'est un peu calmé, mais tout de même, en première au lycée Carnot, son professeur d'histoire écrit sur son bulletin « Trop bavard, trop distrait et trop nerveux pour réussir ». Un visionnaire, ce professeur. Cela dit, les parents sont inquiets. D'abord, Jacques a pris la sale manie d'aller se promener au parc Monceau pour conter fleurettes aux jeunes filles. Et à part ça, il se passionne pour la poésie. Dès qu'il a 3 sous d'argent de poche, il va s'acheter des livres de poésie ou des livres d'art. Et en cachette, car ça n'est pas le genre de chose que fait un garçon de 15 ans, en général. Voilà comment émerge Jacques Chirac, sous la forme d'un adolescent étrange et très original. Et il y a un pays qui fascine le jeune Chirac, qui a maintenant 16 ans. C'est l'Inde, et surtout l'Inde du Rajasthan, l'Inde des Maharajas. Alors un soir à table, il dit à sa mère
« J'ai décidé d'apprendre le sanskrit. »«
Le sanskrit ? Mais pourquoi, mon chéri ? » ?»«
Bah pour lire les textes. »«
Bon, c'est une bonne idée, mon chéri, nous allons te trouver un professeur. »
Le professeur, M. Belanovic, est un élégant septuagénaire, un aristocrate russe qui a fui la révolution de Lénine et qui vit dans un tout petit studio au fond d'une cour du 14e arrondissement. Et après quelques semaines, il dit à son élève
« Écoute, Jacques, on va laisser tomber le sanskrit. Tu n'es pas très doué et ça ne sert à rien. Je vais plutôt t'apprendre le russe. Qu'en dis-tu ?»
Il est d'accord. Si c'est Monsieur Belanovic qui le propose, il est d'accord. Le vieux russe est devenu son mentor. Il est régulièrement invité à dîner chez les Chirac.
Monsieur Belanovic, pourquoi est-ce que vous ne viendriez pas occuper la chambre d'amis ?
Et voilà comment Monsieur Belanovic fait partie de la famille Chirac. Et il fait lire et traduire au jeune Jacques du Pushkin, du Dostoïevski. À part ça, Chirac adolescent a des envies d'aventure. Alors son bac en poche, il annonce à ses parents
« Papa, maman, je suis invité chez des amis cet été, en Normandie. »
C'est un beau bar. La vérité, c'est qu'il veut prendre la mer.
Je suis donc parti, sans rien demander à personne. Et à Rouen, à l'époque, on embauchait ce qu'on appelait des pilotins, des inscrits maritimes, plus exactement. Et de là, inscrit maritime, je suis parti sur un bateau, sur un cargo, comme pilotin.
Et c'est comme ça que le jeune Jacques embarque sur un charbonnier de 5000 tonnes, le capitaine Saint-Martin, cap sur Alger, puis sur Melilla, au Maroc. Sauf qu'il a le mal de mer. Alors le Bosco, le maître d'équipage, lui tend 3 boîtes de sardines à l'huile.
Tiens, bouffe-moi ça. Oh la vache, tu vas me faire dégueuler. Bouffe, je te dis, et finis-moi ces sardines.
Et à la 3e boîte, adieu le mal de mer. Et le voilà qui débarque à Alger. Et là, le Bosco lui demande.
T'es puceau, Jacques ? Ça te regarde pas, c'est pas tes affaires.
Ok, t'es puceau.
On va arranger ça, tu vas voir.
le soir même, le Bosco emmène Jacques chez les petites femmes de la Casbah. Il y passe toute la nuit, toute la nuit. Dans ses mémoires, il écrit « Quand au matin je suis redescendu vers le port, dans l'odeur du grésil sur les trottoirs, d'anisette et de produits coloniaux, je n'étais plus le même homme. » Et il reprend la mer.
Mon ambition à l'époque, c'était de poursuivre une carrière et devenir peut-être un jour capitaine au long cours. Bon, jusqu'au jour où, au moment où on arrivait au port de Dunkerque, j'ai vu une grande silhouette sur le quai, c'était mon père, c'était la fin des vacances.
Le père l'envoie au lycée Louis le Grand, en prépa mathématiques. Entre nous, les cours ont déjà commencé depuis un mois. Le père a dans l'idée de lui faire faire polytechnique, d'en faire un ingénieur ou un industriel. Mais Jacques les mate. Ça lui casse les bonbons, comme il dit.
Papa, je ne veux pas faire polytechnique. Je veux faire Sciences Po. On m'a dit que c'était très intéressant.
Le père est un peu déçu, mais bon, va pour Sciences Po, après tout. Sciences Po, ça mène à tout. En octobre 1951, le jeune Jacques Chirac, 19 ans, fait donc son entrée à Sciences Po, rue Saint-Guillaume, dans le 7e arrondissement. Il se passionne pour l'histoire, pour la géographie et pour la sociologie. Sciences Po fonctionne sur le principe des exposés. Le professeur d'histoire demande des volontaires. Et là, une jeune femme lève timidement la main. Et c'est là que le jeune Chirac la remarque. Bernadette Chaudron de Courcelles. Il la trouve épatante. Alors un jour à la bibliothèque, il va la voir.
Mademoiselle, j'ai l'intention de constituer un groupe de travail qui se réunirait chez moi. Nous serions quatre. Voulez-vous en faire partie? Eh bien, mais certainement. Nous verrons cela.
Il a en lui une force, un enthousiasme qui sont peu communs et qui, quand il avait 20 ans, se percevait bien sûr déjà. Il était assez unique dans son genre.
Au début, c'est une collaboration intellectuelle qui s'instaure entre les deux. Il lui fait faire des fiches de lecture. Pour lui. Elle lit des livres et elle lui fait des résumés. Et à part ça, il lui écrit des petits mots et il la traîne parfois dans les cafés où il a ses habitudes, comme la Romerie Martiniquaise, à Mabillon. Et puis voilà. Un jour, le professeur de géographie organise une visite du barrage de Donzère-Mondragon dans le Vaucluse et toute la promo découvre que Jacques et Bernadette se tiennent par la main. Mais bon, ils n'ont que 20 ans et ils n'en sont pas à se passer la bague au doigt. Les autres filles l'intéressent aussi.
Je crois que j'ai une vie sentimentale raisonnable, normale et raisonnable.
Et en politique, d'ailleurs, c'est pareil. Il a du mal à se fixer. Mais il est sûr d'une chose, il déteste l'extrême droite. Mais à part ça, il y a un an, il flirtait encore avec les communistes. Ça n'a pas duré. Il est allé à une ou deux réunions de cellules, et puis il a coupé les ponts avec ses camarades. En ce moment, à Sciences Po, il est assez séduit par un certain Michel. Michel Rocard, un gars qui cause comme un moulin à parole dans les couloirs. La cigarette au bec.
« Dis donc, Jacques, tu m'accompagnerais pas à une réunion des jeunes socialistes ce soir ?»«
Oh, tu sais, moi, la discipline partisane, ça me botte pas trop.
Viens en téléspectateur, ça t'intéressera, tu verras. »
Jacques Chirac m'a honoré de sa présence à plusieurs reprises. Lui était sans appartenance, mais avec une grande gueule. Il mettait des aphorismes sur tout. Je lui ai un jour proposé, à sa troisième ou quatrième présence, de s'inscrire aux étudiants socialistes et CFIO, et en effet, il m'a répondu, mais vous êtes bien trop à droite pour moi.
Pour l'instant, à 20 ans, Chirac est donc un sans-famille politique. En revanche, il est toujours taraudé par les voyages, par l'aventure. Alors à l'été 1952, il part pour le Cap Nord en Norvège avec un copain de promo. Et l'été d'après, l'été 53, il veut aller en Amérique. Il s'est inscrit à la session estivale de la Business School de Harvard, à Boston. Évidemment, il n'a pas demandé l'autorisation à ses parents.
Tu pars en Amérique, comme ça, sur un coup de tête.
Ça n'est pas un coup de tête, papa. Tout est arrangé. Je pars.
Et avec quel argent ?
Nous avons obtenu une bourse. Ça couvrira les frais du voyage et l'inscription à Harvard.
Et tu logeras où ?
Oh, on verra bien là-bas.
Il y va en bateau, avec deux copains et une copine, sur un vieux rafio de la Greek Line, en classe éco, bien sûr, au-dessus de la salle des machines. À peine arrivé à Boston, pour se faire trois sous, il trouve un job de serveur, dans un restaurant de la chaîne Howard Johnson. Il y sert des ice creams et des burgers de 6h du soir à 2h du matin. C'est là qu'il découvre les films de Marlon Brando et la musique de Sidney Bechet. Il fait aussi passer une annonce pour donner des cours de latin. Et il tombe red dingue amoureux d'une de ses élèves. Une brunette, Florence Erlihi, issue d'une riche famille de Caroline du Sud. Florence a une voiture, une Cadillac blanche. Alors ils vont pique-niquer le long de Charles River. Elle l'appelle « Honey Child », l'enfant du miel. Il parle de se fiancer. Mais lui, il a toujours cette trouille de s'engager. Et puis, il n'est pas venu en Amérique pour se fiancer, il est venu pour voir du pays. Alors, il part en autostop pour San Francisco. Et de là, il se fait embaucher comme chauffeur particulier et il revient sur la côte Est, à la Nouvelle-Orléans. Et puis, il retourne à Boston et il retrouve la ravissante Florence.
Darling. Il faut qu'on parle. Les fiançailles. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée.
Pour vous dire la vérité, ni ses parents à lui, ni ses parents à elle n'étaient emballés par le projet. Et puis en octobre, de toute façon, il faut rentrer. Il faut retrouver Sciences Po. Et Bernadette, avec laquelle il se fiance dès son retour. Le reste, la suite, c'est une autre histoire. L'ENA, le mariage avec Bernadette, le service militaire en Algérie, où il découvrira la passion du commandement et, à son retour, l'apprentissage du pouvoir.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.